Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Gaëlle, Clémence et Sonia sont trois jeunes filles qui ont fréquenté à un moment donné une mission locale. Les deux premières se rendent en ce moment, toutes les semaines, à la mission locale de Tonnerre, une petite ville de 4000 habitants environ dans l'Yonne. Sonia, la troisième, vivait à Cannes en 2018 quand nous l'avons rencontrée et fréquentait alors la mission locale du quartier de la Boca, un peu à l'extérieur de la Croisette. Les missions locales, ça existe depuis le début des années 80 et c'est un service d'accompagnement à l'emploi à destination des jeunes pour faciliter leurs projets personnels, leur accès au travail ou leur insertion. Il y a des conseillers qui font leur boulot et conseillent les jeunes, des ateliers CV, des formations en tout genre. Et si vous suivez les activités proposées à raison de 15 ou 20 heures par semaine, alors vous pouvez bénéficier d'une allocation de 520 euros par mois pendant 12 à 18 mois. C'est un peu le RSA des jeunes avec 20 heures de présence par semaine quand même. Parfois les jeunes viennent juste pointer, d'autres fois ils y trouvent du sens, un projet et des adultes pour les guider. Aujourd'hui, ce sont trois jeunes filles, ni représentatives de leur région, ni d'une sociologie particulière, mais qui racontent des trajets singuliers, parfois violents ou touchants. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, par Rita Ruggirello.
Je m'appelle Clémence, j'ai 22 ans et j'habite à Tonnerre. Là, j'ai passé mon bac en 2020. Donc c'était le bac Covid, j'ai été confinée à partir de mi-février. Donc voilà, c'était assez stressant parce qu'on savait pas trop si on allait passer des épreuves, pas d'épreuves. Finalement, on n'a pas passé d'épreuves et donc on a été notés au contrôle continu. Après le bac, je suis allée en fac de droit à Dijon et j'ai pas validé ma première année. Donc je suis allée au rattrapage que j'ai pas eu non plus. J'ai eu 9,98 après les rattrapages, mais c'est pas passé. Donc j'ai redoublé, mais je suis rentrée dans une asso étudiante qui a fait que j'ai complètement lâché les cours. Et je me suis investie à fond dans l'asso et du coup, au fur et à mesure, j'ai lâché et puis je suis même pas allée au partiel de fin d'année. J'ai fait droit parce que je voulais faire la DGSE. Donc c'est les services secrets à l'extérieur du territoire. C'est en regardant la série Le Bureau des Légendes sur Canal. Je me suis dit, oh c'est super. Et puis moi, j'ai un problème avec la routine. Et du coup, ça permettait d'avoir là des missions vachement différentes. De pouvoir changer de pays, de pouvoir voir des choses nouvelles. C'était pas toute la journée derrière un bureau à faire les mêmes tâches. Le matin, 8h, il faut faire ça, et à 10h, si. Et donc, du coup, c'est ça que je trouvais intéressant. En plus, mes parents m'ont toujours dit que j'avais une bonne capacité à mentir et à cacher mes bêtises. Alors, je me suis dit, autant que je le mette à profit dans ma vie après d'adulte. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa comme métier. Et du coup, il fallait une licence en droit ou en langue. Et comme les langues, moi, c'était pas trop mon truc, mais que le droit, je connaissais pas du tout avec ma filière S, je me suis dit, je vais essayer le droit. Et je suis allée à Auxerre, à côté de la gare Migraine, il y a une antenne de l'armée de terre. Et donc, je suis allée les voir, et quand j'ai passé le premier entretien, ils m'ont demandé si j'avais des maladies. Et quand je leur ai dit que j'étais asthmatique, ils m'ont dit que l'asthme, moi, ma gravité d'asthme fait que je peux pas rentrer dans l'armée. Du coup, mon projet professionnel, il a été complètement dévié, et après, j'étais dégoûtée que ma condition physique m'empêche d'aller plus loin, mais en fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir faire la DGSE, il faut être militaire de rang. Donc, il faut pouvoir faire les premières classes à l'armée, et c'est vrai qu'avec mon asthme, j'aurais pas pu suivre la formation de militaire de rang. Donc, voilà, comme je savais plus trop quoi faire, j'étais plus motivée à continuer dans le droit. En fait, je m'ennuie vite. Dans un travail, quand c'est toujours la même chose, je trouve ça ennuyant. Et du coup, j'ai besoin de défis sans cesse, de me rendre compte que ça, je savais pas le faire, mais je l'apprends et du coup, je suis capable. Mais maintenant que je suis capable de le faire, il faut que j'apprenne autre chose. Sinon, je m'ennuie et après, je m'épanouis pas. Donc, du coup, après la fac, j'ai passé une année sabbatique où je me suis rapprochée de la mission locale à Dijon. Et c'est eux qui m'ont expliqué que c'est pas parce que j'étais allée à la fac que j'avais pas le droit de reprendre des cursus dits plus faciles. Donc j'ai fait des stages, j'ai fait un stage en boulangerie en bas au Moulin d'Arnaud. Et en fait, comme mon patron voyait que j'étais motivée, il m'emmenait avec lui pour faire la chocolaterie, les glaces, voilà. Et puis la pâtisserie, sur une seule année, il y a eu plein de choses qui ont changé parce que il y a eu en rentrée, après on a fait Noël, tous les bûches, les chocolats de Noël, tout ça, c'était nouveau. Puis après il y a eu Pâques, pareil, on a fait beaucoup de chocolaterie, il y a eu la Saint-Valentin, les beignets de carnaval... Puis après l'été avec les glaces. Donc en fait, en une seule année de pâtisserie, j'ai pas eu le temps de me lasser parce que ça a vite changé. Mais après, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que la pâtisserie, c'était sympa, mais ça demande beaucoup de rigueur. Et ça empêche un peu la vie sociale. Et comme moi, j'avais que 21 ans, et que bah, tous mes copains, ils étaient en week-end, le samedi, dimanche, mais moi, je travaillais le dimanche matin aussi. Donc mes jours de congé, c'était lundi, et une semaine sur deux, mardi ou mercredi. Mais c'était des jours où bah, les autres travaillaient, donc je me retrouvais toute seule, et c'était difficile socialement de se dire, bah non, bah, quand on fait une soirée, bah, moi, à 22h, je dois partir, parce que le lendemain, il faut que je sois au travail à 6h, et puis d'attaque. Donc voilà. Peut-être un jour, je reprendrai la pâtisserie, mais pour l'instant, tant que mes copains ils continuent à faire des soirées le week-end, je vais être disponible le week-end. Mes parents, ils sont séparés depuis que j'ai 6 ans. Ma mère, elle a été infirmière, donc à l'hôpital d'Auxerre, et mon père, il est brancardier sur Paris. J'ai été frappée quand j'étais plus jeune par un ancien compagnon de ma mère, entre le CM1 et la seconde. Ouais. Donc ils se sont rencontrés quand j'étais en CM1. Au début, ça se passait plutôt bien. Et après, très vite, il y a eu des problèmes par rapport à ma couleur de peau. Parce que je suis pas blanche. Et que donc, du coup, lui, il était il voulait une femme blanche. Mais ses enfants métis, il n'en voulait pas. Il a été horrible, il a été insultant, il m'a frappé physiquement, il venait exprès chercher le conflit. Il m'appelait la négresse. Et puis, j'étais un peu en surpoids quand j'étais jeune, donc je faisais trop de bruit dans les escaliers parce que j'étais un mammouth. Mais en même temps, c'est normal, parce qu'en Afrique, on vit dans des cases et il n'y a pas d'étage. Donc, j'ai pas l'habitude des escaliers, alors que je suis née en France et que mes deux parents sont français. Et enfin, voilà. Et puis un jour, ma mère a décidé de m'envoyer en internat, donc il avait réussi, j'étais plus à la maison à plein temps, donc ça lui allait bien, et donc il s'en est pris à mon petit frère. Et un jour, mon petit frère m'a appelé en me disant « Oui, depuis que t'es partie, c'est moi qui frappe, tout ça. » Et alors là, j'ai dit « Mais non, mais là, c'est pas possible. » Donc je suis revenue pour reprendre la place, justement, de cet enfant battu. Il s'arrangeait pour que ça soit pas sur des moments où ma mère était à la maison. Comme elle était infirmière, elle faisait des heures pas possibles, des nuits, des astreintes, tout ça, donc c'était des moments où ma mère était pas témoin. Et en plus, quand elle était à la maison, ça se passait toujours bien. Il faisait jamais rien de méchant devant elle. Moi, j'étais jeune, j'avais pas de téléphone. Je pouvais pas contacter ma mère pour lui dire, bah voilà, il s'est passé ça. Donc elle rentrait le soir, je lui racontais ce qui s'était passé. Et elle me dit, non, c'est pas vrai, je l'ai eu au téléphone ce matin. Il m'a dit que c'est toi qui es venu le chercher, que c'est toi qui... Mais non, c'était pas moi. Un jour, elle est rentrée, elle l'a vu frapper mon frère. Et ce jour-là, elle a dit, bon bah ça y est, c'est fini. Et donc, on a déménagé très vite et... Quand j'étais à la fac, sur ma première année de droit, on était 500 par classe, par promo. On était par groupe de 30, avec un prof particulier, et on travaillait certains sujets bien en détail, tout ça, des sujets un peu complexes. Et le premier cours de travaux dirigés, tout le monde était déjà assis, donc il n'y avait qu'une place au fond. Donc j'étais assise au fond, et il m'appelait la Noire du fond, parce qu'il avait décidé qu'il ne retiendrait pas mon prénom.
Et il y avait d'autres personnes noires dans l'amphi ?
Dans mon groupe de TD, non. Donc j'aurais pu être juste la Noire tout court. Mais non, comme j'étais assise au fond, j'étais la Noire du fond. Et quand je cherchais un apprentissage, j'ai postulé à Dijon. Et je suis allée dans une boulangerie au Grésil. Donc les Grésils, c'est le quartier un peu zup de Dijon quand même. Il y a beaucoup d'ethnies différentes. Et il y a un boulanger qui m'a dit « Mais je vais pas vous engager, vous vous rendez compte, vous êtes noire. » J'ai dit « Oui, bah et alors ?»« Bah je vais pas engager un boulanger noir, vous vous rendez compte pour mes clients ?» Et je lui ai dit « Mais vous vous rendez compte, vous, que vos clients, la plupart, c'est des noirs et des maghrébins ?» Bah oui, mais quand même. D'accord, bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais aller demander ailleurs. aujourd'hui, à Tonnerre, je m'ennuie un peu, parce qu'il n'y a pas énormément de loisirs, il n'y a pas grand-chose à faire, tout ça. Mais en même temps, je me suis fait un groupe de copains ici, et tant que j'ai pas un vrai but, tant que je quitte pas Tonnerre pour faire vraiment quelque chose qui me plaît, j'ai pas prévu de partir. J'ai aucune idée de ce que je veux faire, J'ai envie de faire un métier où je me lève le matin en me disant « Ah, je suis contente d'aller travailler, que ça soit pas un calvaire. » Mais j'ai aucune idée du domaine ou du style d'activité, donc c'est pour ça que là, je me retrouve sans rien et sans trop savoir dans quoi je vais aller. J'ai essayé plein de choses différentes. J'ai fait mon stage de 3e dans un cabinet vétérinaire et ça, j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai fait un bac scientifique, d'ailleurs. Parce que plus jeune, du coup, je voulais être vétérinaire, mais les maths en terminale, c'était une horreur. Et donc, j'ai très vite lâché les maths. Et après, bah, pour faire une prépa veto, c'est 80% de maths. Donc, j'avais pas le niveau et donc j'ai lâché cette idée aussi. Je me dis qu'il y a forcément un moment où je vais essayer quelque chose et je vais me dire « Ah ouais, ça, j'ai envie de le faire toute ma vie. » Mais pour l'instant, je me mets pas de barrière. Je sais juste que, bon, bah, voilà, l'aide à la personne, c'est pas trop mon truc. La restauration, c'est sympa, mais c'est contraignant au niveau des horaires. Donc, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Mais après, on verra. Le jour où je tomberai dessus, je saurai que c'est ça. Mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment d'idée.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Gaëlle, j'ai 22 ans. Je suis née à Semur-en-Auxois, dans la Côte d'Or. J'ai commencé un travail en intérim. En fait, je fais des courses de laboratoire. Donc j'emmène des échantillons de sang du laboratoire de Tonnerre jusqu'à Troyes. Et je fais ça tous les jours, sauf le dimanche. C'est un temps partiel. Bon, c'est pas suffisant pour vivre. Je pourrais pas faire ça si mon copain n'avait pas un travail à temps plein. Mais pour l'instant, ça me suffit pour mettre de côté, pour retourner faire des études à la fac en psycho. Parce qu'en fait, c'est ce que j'aurais voulu faire déjà il y a quelques années, mais je savais que j'étais pas prête pour le faire, qu'il y avait certaines conditions à remplir pour pouvoir faire au mieux ces études-là. En fait, j'avais des gros problèmes d'anxiété. Ça m'handicapait beaucoup pour sortir, pour parler avec des personnes. Et du coup, mes premières années de fac, parce que je suis allée à la fac, ça s'est pas très bien passé pour moi, parce que justement, j'avais beaucoup de mal à profiter des opportunités qu'il y avait. Donc par exemple, les associations étudiantes, tout le sport, les offres culturelles. Et j'étais du genre à beaucoup m'isoler. J'ai toujours eu une vision très cynique, très pessimiste du monde et des gens qui m'entouraient, de par l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et ma phrase préférée, c'était que après le soleil, il y a toujours la pluie. Donc avec beaucoup de difficultés à profiter de l'instant présent, profiter du bonheur, profiter des moments de joie en tout cas, parce que je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va arriver? Et donc, je suis allée au lycée ici, à Tonnerre. Et ensuite, je suis partie faire des études. Je suis allée à Lyon, je faisais des études de russe. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout la traduction. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai rencontré quelqu'un de la mission locale de Lyon qui venait pour une journée dédiée à l'orientation. Et elle m'a posé quelques questions et je me suis effondrée. Et c'est elle qui m'a dit, tu sais, tu peux arrêter tes études. Il y a des gens qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider à trouver ce que tu veux faire. Et c'est grâce à ça que j'ai décidé d'arrêter. Et que je suis allée en mission locale à Tonnerre, et que j'ai rencontré ma conseillère, qui m'a beaucoup aidée. Quand je suis arrivée en mission locale, j'ai fait plusieurs stages. J'ai rencontré une infographiste qui fait aussi du web design. Ça s'est tellement bien passé que j'ai décidé de me mettre en micro-entreprise pour continuer de travailler avec elle et moi, de mon côté, chercher d'autres projets. En vérité, je me suis mise en micro-entreprise parce que je voulais avoir le temps de me consacrer pleinement à ma thérapie. Je voulais pas que ça dure 20 ans. Je voulais vraiment que ce soit intensif pour avoir des résultats rapides et pouvoir avancer dans ma vie. Ma mère, sans elle... J'aurais très mal tourné, parce que mon père, il nous incitait à boire, il nous incitait à fumer. En fait, il était très lunatique, il utilisait beaucoup l'humiliation. Il a toujours eu cette vision très très noire du monde. Il était dépressif, il nous parlait de suicide, il regrettait d'avoir fait des enfants, il aurait dû aller à la guerre pour se faire tuer. Enfin, voilà, c'était beaucoup de choses comme ça. Et du coup, il buvait. Quand il arrêtait de boire, en fait, il retombait plutôt dans la drogue. Et quand il essayait d'arrêter la drogue, il retombait dans l'alcool. Et des fois, il se mettait à marcher très vite dans la maison, en claquant les portes des placards. Il y allait fort. Et en fait, il s'en prenait beaucoup aux meubles et aux objets. D'où ma crainte qu'il puisse un jour s'en prendre physiquement à nous. Et j'ai toujours eu très peur qu'il devienne fou, qu'il pète un plomb et qu'il essaye de tuer ma mère ou qu'il essaye de nous tuer. Je le vois plus depuis... ça va faire bientôt 3 ans, en fait. Je vis avec mon copain. On habite dans un petit village pas très loin de Tonnerre. Ça va faire 6 ans bientôt. Ça se passe plutôt bien. La première fois que je l'ai vu, je vivais dans une écluse. Parce que mon père travaille au canal de Bourgogne. Et donc lui, il était saisonnier à ce moment-là, à l'écluse d'à côté. Je revenais d'une matinée au marché avec ma mère. Et je sortais de la voiture. Et lui, il était en train d'arriver avec son scooter. Avec un collègue à lui. Et je suis allée me chercher une bière. Et je leur ai proposé s'ils voulaient une bière. Je voulais juste avoir une excuse pour leur parler. Et ensuite, ils sont partis. Et quelques temps après, j'ai appris qu'en fait, il était en licence de langue à l'université de Dijon. Et que ça pouvait être une bonne source d'information. Donc, j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui travaillait avec lui de me donner son contact. Et on s'est vu 2 jours après avoir commencé à parler. Et on s'est mis ensemble. Et voilà. Avant, j'étais là, je profitais beaucoup, je rigolais beaucoup, mais j'étais pas capable de parler ou de presque d'interagir en fait avec les personnes. C'était très très stressant. J'avais les mains moites qui tremblaient, j'avais mal au ventre, j'avais la gorge nouée, j'avais chaud. Au bout d'un moment, les gens ils sont fatigués en fait d'essayer de créer du lien, et en face ils ont un mur. Une armure tellement solide que ça peut pas passer à travers. Et en fait, c'est justement dans les moments où je me suis sentie profondément seule et où ça a été vraiment très très dur que je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Et surtout que le plus important pour moi maintenant, je pense que c'est les relations aux autres, les moments de joie qu'on peut partager avec des personnes. C'est l'amour, quoi, c'est l'amitié. C'est Donc l'urgence, c'était ça, c'était de garder les personnes que j'aimais auprès de moi. Et c'est ça que j'ai voulu changer. Et c'est ça que j'ai réussi à changer.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Sonia, j'ai 18 ans. Je vis à Cannes. Ça fait maintenant 5 mois. Franchement, ça a été très dur. Le déménagement, quitter ses repères, la cité. Parce que j'habitais dans une banlieue, à Paris, à Aulnay-sous-Bois, qui est une cité qui s'appelle les Emmaüs. J'ai grandi toute mon enfance. C'est une cité, il y a un peu de tout. C'est un petit peu aussi une cité violente, mais je connais vraiment tout le monde dans la cité. Pourtant, c'est une cité grande, hein, mais je connais vraiment tout le monde. J'avais ma famille tout juste à côté de moi et tout. Ça a été dur de les quitter. C'est dur à se détacher d'une cité. En fait, on est soudain entre nous. Il y a une embrouille, il y a toute la famille. Ça marche comme ça. La plus grosse embrouille que j'ai eue là-bas, c'était avec une fille qui s'appelle... j'étais dans le même lycée qu'elle, elle était dans ma classe à Paris... Elle m'a présenté un mec, elle me l'a présenté, donc après, sur les réseaux sociaux, je lui ai donné mon Instagram sur les réseaux sociaux, et après on a commencé à parler, on s'est revus, et après on a officialisé. Je me suis mis en couple avec lui.
Et ça a duré combien de temps ?
Un an. Après, moi je préférais rester dans la discrétion par rapport à mes frères, mais après, moi j'étais partie en vacances une semaine, j'étais ici dans le sud de la France. Et elle est partie dire que, comme quoi, en gros, je suis venue en vacances avec lui, je passe ma vie avec lui, on dormait dans la même chambre, alors que c'est pas du tout le cas. Et je suis pas partie en vacances avec lui, je suis partie en vacances avec mon frère et ma mère. Elle racontait des sottises sur moi, en gros. L'image, j'habite dans une cité, j'ai des grands frères, j'ai une famille. Et c'était un mec de cité, donc ça va, le message, il va vite, il passe vite, le message. Je dors dans la même chambre que lui, je vis en vacances avec lui, donc ça se sent que je suis une pute. Ah oui, coucher, c'est une pute. Hein. On est d'accord, coucher, c'est une pute.
En fait, ici, chez nous, dans notre quartier, c'est comme ça. En fait, tout le monde se connaît. Et si quelqu'un entend qu'on a fait quelque chose, c'est voilà, on va se faire niquer, et voilà, c'est tout.
On va se faire tuer.
Par les grands, les oncles, tout ça, tout le monde va savoir. Chez nous, dans la culture à nous, en tout cas dans la culture à nous, ça se fait pas.
En fait, elle veut faire passer la réputation d'une pute envers moi. Mais ça marche pas avec moi. Puis après, je suis partie là-bas en rentrant de vacances. Je l'ai appelée, je lui dis viens, viens. Elle a commencé à marcher vite. Donc je suis partie derrière, je l'ai pris par derrière. Et je lui dis c'est quoi ton problème et tout. Et c'est de là, elle a commencé à bégayer. Elle m'a dit non, j'ai rien dit, pas du tout. Ça a été inventé, j'ai rien fait. Donc je ramène les gens qui m'ont dit ça. Ils ont dit devant elle que si, elle a dit ça et tout. Je lui dis, moi, elle avait peur de moi. Je lui dis écoute, moi je vais pas te taper parce que t'es une meuf plus faible que moi. Mais la prochaine fois que tu reparles sur moi, là je vais te taper, faible ou pas faible. Elle m'a dit ok, pas de souci.
Comment ça se fait qu'elle a peur de toi ?
Madame, vous avez vu mon gabarit. Mon gabarit par rapport à son gabarit, c'est rien à côté. Franchement, je vous mens pas. À une époque fou de ma vie, j'étais très bagarreuse. Je me bagarrais à chaque coin de rue. C'était pas possible. Les gens me sortaient par les yeux. L'humain me sortait par les yeux. Avec certaines personnes, la bagarre, la manière forte, marche toujours.
Mais on t'a jamais dit la violence, c'est mal ?
Non, on m'a toujours dit la violence résout tout. Ah oui, 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 moi je vous dis, madame, la violence résout toujours tout. À trop être gentil avec les gens, faut jamais être gentil avec les gens, madame, moi je vous préviens. Les gens sont mauvais aussi. Parce qu'ils parlent très mal avec leur bouche. Une fois tu me parles mal avec ta bouche, je t'enchaîne, quoi. Exemple, je suis avec ma sœur, moi et ma sœur, à une période, on s'habillait pareil. Une fille, elle vient, elle s'habille pareil chez nous. Je vais la voir, je lui dis, mais je comprends pas. Moi et ma sœur, on s'habille pareil parce qu'on est des sœurs. Pourquoi toi, tu vas t'habiller pareil que moi ? Mais t'es une malade, je m'habille comme je veux, nanani. Donc automatiquement, moi, tu me parles pas comme ça. Je l'ai pris, je lui ai mis des patates, déchassées, des patates, déchassées.
Un chassé, qu'est-ce que c'est un chassé ?
Écrasement de tête, avec le pied. Ça fait vraiment mal, hein. Je vous mens pas. Hein. Ah, ça fait mal. T'entends. Ah, mais quoi, je blague ? La tête de ma mère, je fais vraiment ça. Je vous promets, je fais vraiment ça. Ah non, moi, je bagarre. Faut pas me chercher des fois. Après, elle est partie voir sa mère est partie voir ma mère. Après, je vous mens pas, ma mère m'a tapé. Après, ma mère m'a remis des coups. Moi, j'étais fière de moi que je l'ai tapée, tout simplement. Et après, elle s'est plus habillée comme nous. Elle a osé s'habiller comme nous, je comprenais pas. Elle nous copiait, vraiment. Elle faisait tous les marchés pour trouver ce qu'on trouvait. Tout ce qu'on mettait, elle le mettait. C'était obligé. J'allais mettre une barrette rose, elle était obligée de mettre la barrette rose. Imaginez-vous. C'est comme si votre gilet noir, moi demain, je vais avec le gilet noir aussi, comme vous. C'est incroyable.
C'est pas très grave non plus.
Si, c'est grave. C'est comme si...
Ça ne veut pas de personnalité.
Voilà. Y a pas de, comme elle a dit, il n'y a pas de personnalité. Ah non, 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 faut pas s'habiller comme moi.
Mais moi, si je m'habille, avais envie de m'habiller comme toi, c'est juste parce que je trouve que c'est tapé. Vachement bien.
Je vous aurais tapé. Je vous aurais tapé aussi. C'est la même chose, c'est le même prix. Vous avez les mêmes vêtements que moi. Pas de souci, mais mettez-les pas le même jour que moi. Je serais là en bas de ma tour, elle habitait dans la même tour que moi. Elle me voyait par sa fenêtre. Je suis dehors, elle me voit avec ses vêtements, par sa fenêtre, elle va mettre les mêmes vêtements que moi. Et elle ose venir en plus. Mais non, madame, arrêtez, c'est pas comme ça. C'est vraiment insolent, je trouve. Après, ma cousine, à l'heure d'aujourd'hui, elle s'est fiancée avec un garçon. Après, elle est partie dire n'importe quoi sur ma cousine, comme quoi, en gros... Elle faisait des cochonneries avec le mec. Parce qu'en fait, elle est amoureuse du garçon. Lui, il ne voulait pas d'elle parce que pour elle, c'était une gamine. Après, je suis repartie au mois de novembre à Paris. Je l'ai cherchée pendant un mois, elle se cachait. Elle m'a supprimé tous les réseaux sociaux. Elle a changé son numéro. Elle a bloqué mon numéro. Elle a tout fait. Mais elle ne m'a pas laissé le choix, en fait. Je suis partie devant mon ancien lycée. Et en fait, elle a fait quoi ? Elle a ramené en fait des anciennes copines à moi. Elle leur a dit allez parler avec Sonia, comme ça elle me voit pas. Mais en fait, moi, il y avait ma cousine derrière qui regardait. Je lui dis regarde. Après, moi, je discutais avec mes anciens camarades de classe. Et elle, en fait, elle était capuchée avec une écharpe et elle a voulu se faufiler entre les personnes. Et là, il y a ma cousine derrière qui me dit Sonia, elle est en face de toi. Et je l'ai sortie de la foule. Au début, elle était avec deux copines à elle. Je me suis embrouillée avec ses copines aussi parce qu'elle voulait pas partir. Je leur ai dit, excusez-moi des termes, hein. Je leur ai dit, allez niquer vos mères, barrez-vous de là, vous n'êtes pas sa mère, allez vous faire enculer, pourquoi vous êtes ici ? Elles ont commencé à dire à... Ouais, dis à ta copine, elle parle autrement. Je leur ai dit, parle à moi directement. Et après, elles sont parties, elles n'ont pas répliqué, elles sont parties. Venu, on est parti sur le côté. En fait, je me suis mise dans un côté avec elle, avec ma cousine. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. En gros, je suis venue la voir une fois. Je lui ai dit, arrête de parler sur moi, c'est mieux pour toi. Elle m'a dit, ok, pas de souci. Elle va chercher la merde, mais encore avec ma cousine. Et là, en fait, au moment où je parlais, je lui ai mis une patate. Et à ce moment-là, elle a appelé toutes ses copines, Leïla et tout, nanani, venez, 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 venez. En fait, là, ses copines, elles sont arrivées au même moment. Ils ont tous voulu me sauter dessus. Et quand eux, ils m'ont sauté dessus et ma cousine, elle s'est mise au milieu, elle, en fait, elle a tout gagné à la vie parce qu'elle a couru dans une voiture et au même moment, la police est venue. Et il restait que tout le monde avec une grosse foule. Après, il y a les surveillants qui sont venus et tout. La police, ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Tout le monde a dit, c'est rien passé, nanani. Et après, moi, je me suis un peu éclipsée de la foule. Et la fille est partie faire quoi là? Je crois qu'elle n'a pas encore compris la leçon. Elle est encore partie envoyer des messages à ma cousine. Elle lui a envoyé de la vulgarité, comme quoi, en gros, ouais, t'as pas honte, tu suces ton mec, tu cannes avec ton mec, nanani. Donc là, quand je vais repartir à Paris, là, l'histoire n'est toujours pas finie, je vais repartir la voir. Et là, je pense, ça va être un peu vulgaire ce que je vais lui faire. Cette fois-ci, elle va pas se sauver, je vais la tenir avec une laisse, je vais prendre comme un chien, tenir avec une laisse, je sais pas, je vais l'attacher, mais c'est pas fini.
Et le copain en question, qui n'était pas parti en vacances, donc, qu'est-ce qu'il est devenu?
Je sais pas, c'est un enculé. Hein. Les hommes d'aujourd'hui, c'est des enculés. Il m'a trompé, il est parti voir une autre meuf, et à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai revu quand je suis partie à Paris, mais ça s'est mal passé. Après, comme je lui ai dit, il y a un bon Dieu, et puis voilà. Après, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je continue à faire ma vie. Lui, il parle à 46 000 meufs, il fait ce qu'il veut. À la fin, c'est lui qui le regrettera, c'est pas moi.
C'était trois jeunes filles et deux missions locales. Un reportage de Rita Ruggirello avec Sonia Kronlund, réalisé par Perret Legras. Je précise que l'histoire de Sonia, que vous avez entendue à la fin de cette émission, a déjà été diffusée dans un sujet intitulé « Embrouille à la Boca ». Et diffusé dans Les Pieds sur Terre en 2018. Merci à Baptiste, Gaël, Olivier, Clémence, Sonia. Merci à Camille Denain, à Élise Régrobelet, à Céline Guilblin et à toute l'équipe de la mission locale de Tonnerre et à celle de l'avocat, ainsi qu'à tous les jeunes qui ont accepté de nous rencontrer. Merci aussi à Valentin Rémy qui est l'attaché de production des Pieds sur Terre et à Luce Mourant qui est notre stagiaire.
chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.